Genèse 37 et 39. OK. Où est Dieu quand tu t'es dépouillé, quand tu t'es dépouillé par l'injustice? Où est Dieu? Je me souviens quand j'ai commencé au début de ma carrière en tech, avec une boîte de technologie, qu'un jour, je suis arrivé à 8h30 et j'ai un collègue qui s'appelle Jason qui est arrivé et il était appelé directement aux RH où, en 30 minutes, il était viré. Il ne savait pas, il est arrivé, c'est un pote, c'est moi qui ai trouvé ce boulot pour lui. Il vient de se marier avec sa femme Stacy, il vient de commencer leur vie ensemble. Il arrive et il était viré. Ce n'était pas juste. La seule raison pourquoi il était viré, c'est parce que le chef n'aimait pas Jason, il a un peu de jalousie contre lui et il est viré. J'imagine que vous avez vécu des choses peut-être plus sévères, vous avez vécu d'autres choses qui étaient injustes dans votre vie. Et toujours quand ces choses arrivent, on demande, où est Dieu? Où est Dieu? Dans l'histoire de Genèse, on trouve pas mal de différentes histoires qui parlent de l'injustice. On a déjà vu en chapitre 34 avec les choses qui se passaient avec Dina, c'était injuste. On voit ce soir avec chapitre 37 et 39 ces choses qui arrivent chez Joseph qui étaient injustes. Mais la promesse de Dieu envers Israël tient bon, malgré toute cette injustice. Même dans les hauts et les bas, Dieu est toujours avec son peuple. Donc Dieu s'engage pour son peuple quand tu t'es dépouillé par l'injustice. À la fin de Genèse chapitre 50, après l'enterrement de Jacob, on voit que Joseph, maintenant, il répond à ses frères. Et ça nous donne un peu une compréhension de tout ce qui se passe dans ces prochains chapitres. Dans chapitre 50, verset 20, Joseph dit aux frères, « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé, et bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Donc, en gros, dans ces chapitres, ce soir jusqu'à la fin de Genèse, ce qu'on va étudier dans ces prochains mois, cet aspect de juste comment Dieu... Wow, les enfants sont forts ce soir. Vive les vacances. Montre comme Jacob, comment Dieu a guidé Joseph par toutes ces choses. Comment il a sauvé même la famille dans ces prochains chapitres. Donc, on a vu l'histoire d'Isaac, on a vu l'histoire d'Abraham, et dans ces prochains chapitres, on va regarder l'histoire de Joseph et comment Dieu a utilisé cet homme pour sauver sa famille. Quand tout paraît compliqué ou injuste, la chose que l'auteur de Genèse dit, l'auteur Moïse, la chose qu'il dit, c'est que Dieu est avec Joseph. Et j'espère que ça peut nous aider aussi ce soir. J'imagine beaucoup de savent que l'un de ses frères qui a vendu Joseph dans cette histoire, c'était Judas. Judas, Jésus venant de la tribu de Judas. Ça, c'est pourquoi il s'appelle Lion de Judas. Et c'était Judas et Tamar qui étaient partis de son descendant. Donc, Jésus est venu sur la terre par la croix, par sa crucifixion, par sa résurrection. Et un jour, Jésus reviendra. Il reviendra pour tous qui croient en lui, pour tous qui croient en lui, et à ce moment-là, il n'y aura pas d'injustice, il n'y aura pas de mensonge, il n'y aura pas d'abus de pouvoir, il n'y aura pas même de jalousie. Ça, c'est notre espérance en tant qu'Église. Ce soir, c'est un rappel pour nous tous que Dieu nous donne une grâce par le Saint-Esprit. Dieu est avec nous. Dieu continue de faire ce qu'il a prévu pour réaliser ses projets, malgré notre péché ou même quand tous est dépouillé par l'injustice. Dieu engage vers son peuple quand tout est dépouillé à cause de l'envie et la jalousie, ce qu'on va regarder en chapitre 37. Et à cause des mensonges et l'abus de pouvoir, ce qu'on va regarder dans chapitre 39. OK, dans chapitre 37, c'est à cause de l'envie et la jalousie. Et on voit dans ces premiers versets, versets 2 à 4, comment Dieu est avec la famille de Jacob. Ils ont bien grandi. Ça fait 10 ans depuis toutes ces choses qui se passaient à Sichem. Et ça fait 10 ans, ils ont bien grandi. Mais Jacob a toujours son fils, son chouchou. On dit chouchou, je pense, comme ses parents avant lui. Donc, il y a un peu cet aspect de péché générationnel. Il a toujours cet favoritisme vers Joseph. Joseph, le fils de Rachel. Joseph a reçu un porte-manteau. C'était important pour mise à part Joseph, un peu comme la personne qui était un peu comme le patron pour ses frères. Et j'imagine pour ses frères, quand ils regardent le manteau, c'est un peu comme... Ça symbolise le fait que le père aime Joseph plus que eux. Chaque fois quand ils ont vu cette porte, quand ils ont vu ce manteau. Dans les versets 5 à 11, on voit à cette époque-là, les rêves c'était important. Et si vous avez un rêve, c'est quelque chose que vous partagez. C'était pas une société individualiste. Si vous recevez un rêve, c'est quelque chose que vous partagez avec la communauté. Mais ça aussi, ça créait des problèmes. Ça créait encore de envie et jalousie avec ses frères. On voit dans le premier rêve que Joseph a partagé avec sa famille, que sa famille mit à genoux devant lui. Il ne savait pas qu'un jour arrive qu'il sera presque le chef d'une nation. Il n'a pas bien compris. Le deuxième rêve, encore un peu plus fou, parce qu'il dit qu'il sera plus grand que ses parents. Encore, ce n'est pas possible. Mais c'est exactement le rêve qu'il a partagé avec eux. Et ça continue à créer de jalousie et d'envie avec ses frères. Mais il me semble, dans ces histoires, on voit l'innocence de Joseph. Joseph n'est pas choisi d'être préféré. Ce n'est pas lui qui a choisi d'avoir ses rêves. Ce n'est pas lui qui a choisi d'avoir ce manteau de son père. Il était innocent. On voit en verset 12 à 35 que Jacob a demandé à Joseph de vérifier comme patron, vérifier le troupeau, vérifier que les frères font comme ils doivent faire. Donc, Joseph marche plusieurs jours vers la ville de Sichem pour chercher ses frères. Dès qu'il voit qu'il arrive de loin, ses frères commencent à comploter contre lui. Comment ils vont le tuer? Même, on voit dans le texte qu'ils appelaient le rêveur. C'est un peu comme ils déshumanisent un peu Joseph. Ce n'est pas leur frère, c'est le rêveur. On ne sait pas vraiment qui a l'idée de s'en prendre à Joseph, mais c'est Ruben, le fils aîné, qui est le seul à vouloir l'empêcher. Peut-être parce qu'il avait déjà fait des bêtises dans le passé, et peut-être s'il sauve Joseph, peut-être il peut gagner un peu plus de confiance pour son père. On ne sait pas. Quand Joseph est arrivé, les frères ont dépouillé le manteau de Joseph, ils ont mis dans une citerne, et ils ont jeté Joseph dans cette citerne. En Israël, le pluie tombe pas tout le mois, pas tous les jours, quelques mois chaque année. Donc il y a des années, ou des mois où il n'y avait pas de l'eau dans la citerne. Donc c'était sec. Ils ont mis Joseph dans cette citerne. Donc c'est Judas qui a balancé l'idée de vendre Joseph à ces personnes qui viennent d'arriver, les Ismaélites. Et c'est intéressant aussi parce que les Ismaélites et les Madianites viennent de la famille loin d'Abraham. C'est des descendants d'Ishmaël. Donc même ils ont vendu leur frère aux autres personnes dans leur grande famille. Ils ont reçu 20 pièces d'argent, c'est un peu comme 2 années de salaire pour un berger à cette époque-là. Mais quand vous divisez avec 10 personnes, c'est pas grand-chose, n'est-ce pas? C'est surtout la jalousie et la rancœur qui a poussé ses frères à vendre Joseph. Quand Ruben n'était pas là, il revient à la citerne, il a trouvé que Joseph n'était pas là. Et encore, il était en panique parce que peut-être c'est la seule fois qu'il peut gagner la confiance encore de son père. Et c'est perdu. On ne sait pas trop qui a choisi et comment ils ont choisi de partager avec Jacob cet aspect de le manteau, mais ils ont trompé Jacob et les frères trouvent un moyen de lui faire croire. Avec le manteau plein de sang, ils sont arrivés et Jacob a pensé qu'il était bien dévoré. On ne sait pas non plus ce qu'ils ont ressenti en voyant le père aussi triste quand il a fait le deuil. On ne sait pas. Le chapitre finit en nous disant, en verset 36, « Quant aux Madianites, ils vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, un officier de Pharaon qui était le chef de garde. » Donc, preuve que l'histoire va continuer. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Donc, comme j'ai dit franchement hier, aucune chose dans l'histoire qui mérite le fait de toute cette colère, de toutes ces choses que le frère a fait contre Joseph. Plus tard dans l'histoire, on voit que en Genèse chapitre 42, verset 21, les frères, ils ont partagé un peu plus ce jour-là. Ils ont dit, oui, nous avons été coupables envers notre frère. Nous avons bien vu sa détresse quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté. On peut imaginer sans problème comment Joseph est senti complètement abandonné au bout de lui-même. Ce soir, si tu es blessé par la haine, si tu es blessé par la jalousie des autres, comme Joseph, c'est là où cette histoire nous booste. Dieu était loin d'être absent quand Joseph était dans la citerne. Il était loin d'être absent quand il a vendu Joseph dans l'esclave. Dieu était là. Et Dieu a utilisé toutes ces mauvaises actions de ses frères, toutes ces mauvaises actions de ces personnes qui ont vendu quelqu'un pour l'esclavage, pour un plus grand plan. Un plan qui allait finalement sauver toute la famille à cause d'une grosse famine qui va arriver, grâce à Joseph. En fait, il arrive souvent, il me semble, dans nos vies, que le moment où on sent trop petite, quand on sent qu'on est épuisé, c'est à ce moment-là, comme Joseph, qu'on trouve que Dieu est plus grand. On sent que Dieu est plus bienveillant qu'on a imaginé, parce qu'on n'a rien de chose à donner. On est vidé et il est là pour nous remplir. Ça, c'est l'histoire de ce soir. Souviens-toi, même les galères et les moments difficiles peuvent servir à quelque chose de plus grand que ta vie, mais aussi pour le projet pour Dieu, pour ce monde. Et ça peut traverser par toi et pour toi dans ces moments-là. Ce soir, si tu combats la jalousie, si tu combats la jalousie comme ses frères, on doit réaliser que cette jalousie, c'est quelque chose contre Dieu. C'est quelque chose contre Dieu. Le psaume 73, ça parle d'une personne qui galère avec Dieu parce qu'elle est jalouse de ceux qui ont plus. Il voit tout ce qui se passe, tout ce qu'il gagne. Il dit, j'ai failli tomber, mais pas en glisser. Parce que j'étais jaloux des gens trop fiers en voyant tout ce que leur réussissait. Le psalmiste, lui, ne pouvait pas vraiment se venger, mais les frères de Joseph, ben, ils ont fait jusqu'au bout. Ils ont fait des actions mauvaises contre Joseph, juste pour dégager la source de leur envie. Et qu'est-ce qu'ils ont gagné? Est-ce que Jacob a aimé ses frères, ses fils, plus? Non, pas du tout. En fait, ça, c'est le piège de la jalousie. Au lieu d'avoir ce qu'on voulait, on casse tout. Comment on fait face à la jalousie? On voit encore ensemble 73, verset 1. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui gardent le cœur pur. Et il explique dans le psaume, si tu voudrais regarder ce soir, il explique dans le psaume que quand il est entré dans le sanctuaire, il a vécu la présence de Dieu, il a bien compris toutes ces choses. Il a été miné par la jalousie, mais par la présence de Dieu, son cœur était calmé. Il a réalisé que Dieu est vraiment avec lui. Le succès de Jean, pas très honnête, ça c'est juste une illusion. C'est pas durable. La douleur peut durer un moment, ça c'est vrai. Peut-être on a senti cette douleur cette année, mais sa présence, la présence de Dieu, reste pour toujours pour tous qui croient en lui. Ça, c'est notre espérance. Que ce soit à cause de la jalousie ou de l'envie d'autre, ou bien à cause de nos propres désirs qui nous épuisent, notre Dieu est bon et plein de grâce, nous réveille toujours de sa présence, parce qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous. On voit dans le prochain chapitre 39, Dieu s'engage vers son peuple quand tout est dépouillé à cause des mensonges et l'abus de pouvoir. On voit que Dieu est toujours avec Joseph dans ses premiers versets. Même que Joseph, maintenant, il est en Égypte, il est un esclave dans la maison de Potiphar, mais Dieu est toujours avec Joseph. Il n'est pas parti. Et on voit un peu comme Laban a vu avec Jacob que Dieu était avec Jacob. Maintenant, Potiphar voit comment Dieu est avec Joseph. Et toutes les choses qui touchent, il y a une prospérité avec ça. Il voit la bénédiction de Dieu dans la main de Joseph. Et il donne plus en plus de responsabilités à Joseph grâce à ça. Potiphar était le chef de la garde de la pharaon, et même aujourd'hui, on peut voir dans le vieux écrit égyptien qui parle de cet homme de Potiphar. Mais on voit au verset 6 et 7 aussi qu'on apprend aussi que Joseph était un beau gosse. Il était un beau gosse, et ça n'a pas échappé la femme de Potiphar. La femme de Potiphar n'y va pas par quatre chemins. Elle lui demande de coucher avec elle tout de suite, direct. Et elle essaie chaque jour de séduire Joseph. Mais il tient bon. Versets 8 à 19, il tient bon. Il était innocent par tous ses jours. On ne sait pas s'il était belle, ce n'est pas important, mais elle avait clairement du pouvoir. Elle avait du pouvoir. Et il fallait de craindre pour lui dire non. Il était juste un esclave, c'est un hébreu. Il était rien. Et chaque jour, il a dit non. Pourquoi il refuse? Il ne veut pas blesser ni Dieu, ni Potiphar. Il respecte la loi en aimant Dieu et aimant les autres. Joseph dit non parce que ça serait un manque de respect pour son maître Potiphar, qui lui a fait confiance, ça c'est vrai, mais aussi il lui rappelle aussi qu'elle est mariée. Mais surtout, il refuse parce qu'il ne veut pas pécher contre Dieu. Joseph était innocent. Mais même si Joseph a fait tout ce qu'il fallait, ça n'a pas empêché la femme à manipuler, d'abuser son pouvoir, de créer des mensonges contre lui. On pourrait penser qu'il va être récompensé pour toutes ces choses qu'il a vécues contre elle, mais en fait, c'est tout le contraire qui arrive dans ces prochains versets, n'est-ce pas? Joseph se retrouve dans la galère, même qu'il a fait tout ce qu'il faut. Joseph se retrouve dans la galère et tout seul pour se défendre quand la femme de Potiphar l'accuse à tort. La femme de Potiphar balance à tout le monde que Joseph a tenté de s'en prendre et elle est manque de respect à toute la maison. Son accusation, c'est surtout montre aussi les autres que, qu'il doit être contre Joseph, mais aussi, il vise aussi Potiphar, parce qu'il dit, c'est toi qui as emmené cet hébreu dans notre maison. Donc, c'est ta faute. Et encore une fois, Joseph est reconnu à cause de ses vêtements. Au premier, c'était le manteau, et maintenant, c'est son robe qu'on lui a dépouillé, qui sont maintenant utilisés contre lui. Quand Potiphar entend ce que raconte sa femme, il se met en colère. Il y a plusieurs personnes qui pensent que peut-être Potiphar savait qu'elle a menti parce qu'il n'a mis pas Joseph dans une prison avec tous les autres esclaves. Il n'a pas exécuté Joseph comme c'est possible à cette époque-là, pour quelque chose comme ça. Mais il a mis Joseph dans une prison avec tous les autres prisonniers politiques. Et c'est là où on voit que c'est encore l'injustice. Même il savait que Joseph n'a pas menti. Joseph s'est donc retrouvé avec les autres prisonniers du roi. Et même quand il est en prison, Dieu est avec lui. Grâce à Dieu, Joseph garde la tête froide. Il s'entend bien avec le chef et finit par superviser les autres dans la prison. Versets 21 et 23. Donc, Dieu était encore toujours avec Joseph. John Calvin disait que la Bible, ce n'est pas juste une histoire de rédemption. Ce n'est pas juste une histoire, juste on peut regarder et on voit la grande histoire, mais aussi c'est comme un miroir qui peut nous aider à mieux nous connaître. Même si ça ne joue pas le même rôle partout, on peut regarder ces personnages et on peut dire qu'est-ce qui c'était bon, qu'est-ce que c'était mauvais, qu'est-ce qu'on peut apprendre par ces différents personnages. Donc, pour moi, c'est vrai, la façon dont Joseph réagit montre la façon aux chrétiens aujourd'hui, comment on devrait répondre à une avance, déplacer une tentation. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un bon exemple. Grâce à sa relation saine avec Dieu, il arrive à dire non à la femme de Potiphar chaque jour. Joseph a fait exactement ce qu'on voit dans le proverbe qui conseille de faire et il a résisté toutes ses avances. Ça, c'est ce qu'il a fait. Joseph mit en pratique aussi le conseil de Paul en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, qui dit « Fuyez l'immoralité sexuelle ». Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et même, il s'échappait vraiment quand la femme est arrivée. Il est parti tout de suite. Donc, il est fouillé. Mais j'aimerais dire un truc, peut-être parce que j'ai grandi dans une église où on a parlé beaucoup de la pureté sexuelle. Franchement, les gars, je parle aux gars, toutes les femmes ne sont pas comme les femmes de Potiphar. Elles ne cherchent pas forcément à sortir avec toi. Je suis désolé, mais c'est le fait. Mais les filles, tous les hommes, ils ne sont pas comme Sichem dans le Genèse chapitre 34. Ils ne cherchent pas de trouver un moyen de faire de séduction ou d'une tentation non plus. Et il me semble quelquefois, on crée des règles pas saines. Mais on n'est pas appelé à considérer le sexe opposé comme notre ennemi. Dans l'Église, ils sont notre frère et sœur. Et il me semble quelquefois, j'espère dans notre Église, qu'on peut construire des relations bien sûr saines, avec des limites saines, oui, s'il vous plaît. Mais aussi qu'on peut créer une confiance entre nous, entre frères et sœurs, hommes et femmes, que ça c'est un endroit où on peut avoir confiance dans l'un et l'autre. Et on peut vraiment refléter l'image de Dieu pour tout ce monde. Ça veut dire une relation homme et femme dans ce monde. Amen. L'histoire de Joseph montre que suivre la sagesse, oui, comme éviter l'adultère, ne garantit pas que tout ira bien. Ça reste le meilleur choix. Ça reste le meilleur choix à faire, mais ça n'empêche pas les galères. Joseph a bien résisté à la tentation qui s'est retrouvée. Quand même en prison, il a continué à persévérer. Il a persévéré, il a persévéré, il a continué à persévérer. Si tu te sens paumé à cause de mensonges ou de l'abus de pouvoir, comme Joseph, j'espère que tu vas vraiment saisir la bonne nouvelle pour toi ce soir. Dieu est assez grand et puissant pour utiliser n'importe quoi des autres pour son plan pour toi. Dieu, Emmanuel, il est là avec toi. Sa présence est vraie. Il peut te couvrir, te rappeler que belles choses t'attendent un jour où il n'y aura plus de mensonges, plus d'abus, pouvoir, plus de jalousie. Et on peut expérimenter la vraie vie éternelle dans la présence de notre Dieu et sa gloire, grâce à Jésus. Comme l'histoire de Joseph révèle, avant la création du monde, Dieu avait un plan. Il avait un plan. Comme Dieu a envoyé Joseph en Égypte pour sauver son peuple, Dieu a envoyé son Fils pour sauver le monde par la croix. Pas pour juger, mais pour le sauver. Dieu aime le monde tellement. Pierre, pendant la Pentecôte, dans le chapitre 2, livre de Actes, prochaine diapo. Cet homme, il dit, cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la présence de Dieu. Je vais répéter ça. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la présence de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu, ça c'est toujours de bonnes nouvelles, souvent quand on voit ça dans le texte biblique. Mais Dieu, ça c'est vrai, mais Dieu a brisé le lien de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle retienne. Et Pierre donne une invitation pour nous tous. Il a donné une invitation pour toutes ces personnes qui ont entendu son prédication à ce jour-là. Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, son présence. Jésus, dépouillé par le péché des autres pour le projet défini de notre Dieu. Même quand tu es dépouillé dans notre vie, grâce à Jésus, nous sommes revêtus de sa présence, rendus justes par sa bonté, pour sa gloire et pour son plan défini. Amen. Je voudrais vous inviter à prier avec moi, si vous êtes libre à prier. Seigneur, merci encore pour le texte ce soir, qui nous parle de le fait comment tu travailles partout dans ce monde, dans le haut et le bas, dans la réussite et dans la galère, dans la vie quotidienne. Seigneur, tu es toujours notre roi, tu es toujours souverain. Aide-nous d'avoir une espérance qui voit que même si on ne voit pas aujourd'hui comment ça va fonctionner, comment ça va continuer comme ça, qu'on a une espérance pour l'avenir. Quand tu vas vraiment créer un monde sans abus, sans injustice, avec un amour immense qui va créer la louange pour toutes ces tribus, pour toutes ces personnes, avec toutes ces langues, pour ta gloire et pour son Église, pour ton Église. Donc ce soir, c'est encore une invitation pour vous. Si vous croyez que Jésus-Christ est votre roi et votre sauveur et rédempteur, j'espère que ce n'est pas cassé, on verra. Vous êtes bienvenus. C'est comme Pierre a fait une invitation pour le baptême. Ce n'est pas un baptême ce soir, mais c'est la Sainte-Seine. Et vous pouvez participer avec la Sainte-Seine si vous croyez en Christ comme votre sauveur. La nuit qu'il était trahi, est-ce que je peux regarder le texte? Parce que Il a rompu le pain. Il a dit, « Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » Cette alliance, c'est quelque chose est écrit. Si vous êtes chrétien, c'est écrit pour vous. Ce n'est pas quelque chose que Dieu doit remplir. C'est déjà fait en Christ. Et ce soir, on peut recevoir cet amour que Dieu a fait par Jésus-Christ. Donc, on a un nouveau chant. On va chanter. Et il va commencer. Et quand vous êtes prêts, vous pouvez prendre la Sainte-Seine comme vous voulez. Mm-hmm.